En Inde, on a effectivement un problème depuis quelques années qui va en s'aggravant malheureusement. On se rappelle tous les heurts violents qu'il y avait eu, même des pogroms antichrétiens, notamment dans l'état d'Orissa, il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette violence est un petit peu retombée, Dieu merci. Elle était sans doute liée à l'époque à des considérations politiques, avec une visée électorale, où le parti fondamentaliste hindou, le BJP, cherchait sans doute à reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette violence extrême qui a fait énormément de morts chez les chrétiens, énormément de villages détruits, de maisons de chrétiens brûlées, incendiées, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des dizaines de milliers de réfugiés chrétiens dans des camps qui n'osent pas sortir par mesure de sécurité et qui également n'ont nulle part où aller, puisque leurs maisons ont été détruites. Donc cette violence extrême, elle a un peu régressé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que cette violence antichrétienne, en tout cas cette tension qu'il y a entre fondamentalistes hindous et les communautés chrétiennes, s'est aujourd'hui un petit peu élargie à l'ensemble du pays. Autrefois, elle était contenue dans ce qu'on appelle la Hindi Belt, c'est-à-dire la ceinture hindoue qui part du nord-ouest au centre-est. Aujourd'hui, on observe, même dans le sud, le Kerala par exemple, où la proportion de chrétiens est plus importante, des cas de tension et d'agression antichrétienne, ce qui est évidemment très triste.
Et les chrétiens sont-ils la cible principale des violences perpétrées par les extrémistes hindous?
Ah bah là, clairement, ce sont les chrétiens. Nous sommes dans un pays qui est majoritairement hindou. Il y a également, bien sûr, une communauté musulmane assez importante. Il y a régulièrement des heurts entre eux aussi. Mais les cas les plus flagrants de violences antireligieuses aujourd'hui en Inde sont contre les chrétiens, contre les communautés chrétiennes. Et donc, c'est, encore une fois, de la part de fondamentalistes hindous. Parce que la plupart des hindous n'ont rien à voir avec cette violence. C'est important de le préciser tout de même. Mais il y a une instrumentalisation politique avec une minorité très active, très violente de fondamentalistes hindous qui s'en prennent aux chrétiens et qui veulent voir l'Inde débarrassée de sa minorité chrétienne, ce qui est effectivement pour nous est très surprenant dans la mesure où les chrétiens sont une infime minorité. L'Inde aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Il y a à peu près un peu plus de 2,5% de chrétiens. Et si on prend les catholiques, 1,6% seulement. Vous voyez, donc ce sont des chiffres très faibles. Ça fait en tout à peu près 17 millions de catholiques dans le pays sur plus d'1 milliard. C'est-à-dire que c'est quasiment insignifiant. Et donc, on ne voit pas très bien pourquoi et comment les chrétiens représenteraient une menace. Mais le résultat est là, aujourd'hui, ils sont la cible de menaces.
Et les chrétiens persécutés appartiennent-ils aux castes les plus basses?
Alors effectivement, en Inde, les choses sont assez compliquées. Vous avez des chrétiens dans toutes les castes, mais aujourd'hui avec une surreprésentation des chrétiens dans les castes les plus basses. Tout simplement parce que la société indienne est effectivement partagée, organisée en castes depuis des millénaires, et les gens n'ont pas envie de changer. Vous voyez, les brahmanes, la caste la plus élevée, a des privilèges qu'elle entend bien sûr conserver. Et donc ce sont souvent les castes les plus basses, notamment les intouchables, les dalits, qui ont été les plus sensibles au message de l'Évangile, qui est un message d'égale dignité de tous. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour eux, c'est quelque chose qu'on peut bien comprendre les intéresse de prime abord, mais c'est aussi quelque chose de profondément révolutionnaire dans ce pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette tension antichrétienne aujourd'hui. Monseigneur Souza, un des cardinaux indiens, disait récemment que les chrétiens étaient de la matière explosive en Inde. Et qu'est-ce qu'il entendait par ça? Ben justement parce que ce message d'égale dignité de tous, à terme, combat le système des castes et donc remet en cause toute l'organisation sociale de l'Inde. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, y a-t-il des tensions aujourd'hui. Lorsqu'on parle de matière explosive, il faut bien préciser que les chrétiens ne vont pas se faire exploser dans un bus ou faire des attentats terroristes, hein. Ce n'est pas du tout ça que le cardinal voulait dire. C'est une matière explosive dans le sens où la force subversive de l'Évangile, on s'en rend compte dans ce pays, finit petit à petit par changer radicalement le pays. Bien sûr, cela prendra du temps et on n'est pas au bout de nos peines et on ne verra pas ce changement radical d'ici quelques années. Ça prendra encore sans doute plusieurs générations. Mais voilà, l'Église, même si elle est ultra minoritaire, en termes de chiffres, on a dit 1,6% de catholiques dans le pays, a par contre une importance très forte dans le domaine éducatif et social. Plus de 20 millions d'étudiants, la plupart hindous, vont dans des écoles catholiques en Inde, et près de 25% des centres de soins, hôpitaux, cliniques, sont tenus par l'Église catholique également. Donc, une très faible valeur numérique, mais une très forte représentation et présence dans la société indienne, avec à terme ce bouleversement lié, encore une fois, au message de l'Évangile, qui appelle chacun à une égale dignité, ce qui est, encore une fois, tout à fait nouveau pour l'Inde.
Et est-ce qu'on peut imaginer que ces populations quittent le pays ?
Aujourd'hui, on voit difficilement comment cela pourrait arriver dans la mesure où parmi eux, il y a beaucoup de pauvres. Et donc les pauvres n'ont simplement pas les moyens de partir. Vous voyez. D'autre part, ce sont des populations qui sont chrétiennes pour la plupart depuis assez longtemps, voire des générations, voire parfois depuis même deux millénaires. On sait que les premiers chrétiens, l'Église est arrivée avec les tout premiers apôtres. On est quasiment certain que Saint Thomas même est arrivé jusqu'en Inde. Et donc l'Église n'est pas étrangère à l'Inde. Elle est là. Le christianisme fait partie de l'Inde aussi depuis 2000 ans. Donc ils n'ont aucune raison de partir. Ils ne sont pas étrangers à leur pays. Voyez. Et on n'en est quand même pas non plus, à part quelques régions très localisées, et où encore une fois, ça s'est quand même un peu calmé maintenant, on n'en est pas à ce qui arrive au Moyen-Orient aujourd'hui, à des pays comme l'Irak, où là, c'est une réelle question de survie, où les chrétiens doivent partir parce que sinon, ils sont assassinés. On ne peut pas comparer l'Inde, en tout cas pour le moment, à ce qui arrive dans cette région du monde.
Pour terminer, quel est votre message à l'occasion de cette journée nationale de prière pour les chrétiens persécutés ?
Le message, c'est que, eh bien, il ne faut pas les oublier. Je crois que dans l'actualité religieuse récente, avec ce très beau synode sur le Moyen-Orient, on a eu l'occasion de voir d'un peu plus près, d'entendre des témoignages des chrétiens, justement, de cette région du monde, du Moyen-Orient, et de leurs souffrances. Petit à petit, nous observons aujourd'hui une prise de conscience qui n'existait peut-être pas autrefois, de la souffrance endurée par de nombreuses communautés chrétiennes dans le monde. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, à nouveau. La bonne chose, c'est que voilà, enfin, on prend conscience de cette réalité. Ce n'est plus tabou, ou en tout cas moins qu'autrefois. La mauvaise nouvelle, c'est la réalité que cela représente, c'est-à-dire, très concrètement, la souffrance de tant de personnes. On estime qu'aujourd'hui, à peu près 200 millions de chrétiens ne sont pas complètement libres de pratiquer leur foi, de vivre simplement en tant que chrétiens. Ce sont des chiffres qui sont vraiment gigantesques. Et donc, il faut non seulement ne pas les oublier, mais il faut prier pour eux. C'est ce qu'ils nous demandent avant tout. Et il faut, dans la mesure du possible, également les aider financièrement. C'est notamment une des missions de l'aide à l'Église en détresse.